France Inter, il est 13h passé de quelques secondes. En somme, l'heure de votre journal, Frédéric Barrère.
Bonjour à tous. Un scrutin novateur mais aussi critiqué et rejeté par certains candidats, mais qui pourrait bien avoir des répercussions majeures à gauche. Le résultat de la primaire populaire sera connu ce soir. 336 000 votants à midi et la gauche est suspendue au résultat de ce vote. Invité de ce journal, Édouard Le Cerf, politologue, directeur général du adjoint du groupe BVA. Mais avant, nous irons en Irlande du Nord à Derry, une ville entre paix et plaie qui commémore aujourd'hui le 50e anniversaire du Bloody Sunday. Richard Place dans un instant. Emmanuel Macron s'empare du dossier du nucléaire iranien. Le président français a demandé ce matin au président iranien Raisi d'accélérer les négociations. Dans ce journal également, des législatives incertaines au Portugal, la grève des poubelles qui exaspère les Marseillais. Et puis en tennis, la finale de l'Open d'Australie oppose en ce moment Medvedev à Nadal, les deux premiers sets remportés par le Russe. Le temps, souvent gris, sauf dans le sud-est. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
Un anniversaire toujours très douloureux, celui du dimanche sanglant. 50 ans après, la ville de Derry, en Irlande du Nord, commémore le Bloody Sunday et la mort de 13 manifestants dans un ghetto catholique de Derry, tué le 13 janvier 1972 par des parachutistes britanniques. Une 14e victime décédera quelques mois plus tard. Un massacre qui va exacerber le conflit armé qui oppose les catholiques aux protestants. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
En direct de Derry, Londonderry pour les protestants, la douleur et la colère sont toujours présentes 50 ans après lors des commémorations aujourd'hui.
Oui, on l'a bien vu lors de la marche qui a eu lieu ce matin et qui vient à l'instant de s'achever, cette marche qui reprenait le parcours exact de la manifestation pour les droits civiques qui avait démarré il y a 50 ans et qui s'est terminée dans le sang. Cette marche très silencieuse, très respectueuse, voulue par les familles, avec au premier rang des enfants qui portaient chacun une rose blanche dans leurs mains et derrière eux, des adultes avec des portraits, de grands portraits de chacune des victimes de ce Bloody Sunday, des portraits en noir et blanc, mais une histoire bien actuelle, bien récente pour les gens qui vivent ici. Tous ont connu, connaissent ou portent cette douleur en eux. Ils la racontent bien volontiers. Elle s'est exprimée aussi lors des prises de parole qui ont eu lieu à l'issue de cette marche. Ici, on est partagé entre le sourire et le soleil qu'on a aperçu dans cette matinée parce que il y a toujours cette solidarité, parce qu'il y a cette mobilisation, parce que le souvenir ne s'éteint pas, et aussi la tristesse avec cette pluie qui tombe désormais de voir que la justice britannique n'avance toujours pas.
Alors Richard, il y a eu les excuses du gouvernement britannique en 2010. Qu'espèrent encore les familles dans cette affaire pour refermer définitivement les plaies ?
Ces excuses ont marqué un point de bascule ici, très clairement, parce qu'il y a des gens qui s'en suffisent, finalement, qui disent, clairement, ce matin, on pouvait l'entendre dans le cortège, ce que nous avons obtenu, c'est déjà énorme, obtenir d'un Premier ministre britannique qu'il s'excuse, qu'il reconnaisse enfin que les victimes n'étaient pas des terroristes, mais bien des manifestants pacifistes, c'est suffisant. Et puis, il y a une autre partie de la ville, ce qui sépare d'ailleurs Derry ici aujourd'hui, il y a une autre partie de la ville et des familles de victimes qui, elles, réclament des procès, qui veulent voir les soldats qui ont tiré, traduit en justice, notamment le soldat F. Son nom n'est jamais cité, c'est ainsi qu'il est désigné, mais il est identifié. Il a tué 4 personnes ce jour-là, ça paraît très clair, en tout cas les enquêtes semblent le démontrer. Mais pour l'instant, la justice britannique n'avance pas sur ce cas-là. La politique ne veut pas non plus avancer sur ce cas-là, ne veut pas rouvrir et raviver les plaies de cette époque-là. Et c'est ce procès, ce sont ces poursuites que certains ici à Derry veulent voir se poursuivre.
Richard Place, en direct de Derry, en Irlande du Nord, merci à vous. L'actualité politique de ce dimanche, elle est à gauche avec le vote et le résultat ce soir de la primaire populaire. 467 000 citoyens inscrits, 336 000 votants à midi. Un vote indicatif, on sait qu'il n'y aura pas de candidat unique de la gauche désigné ce soir. Christiane Taubira espère faire de cette primaire un tremplin pour sa candidature et un vote dont on ignore encore les répercussions sur cette gauche éparpillée. Samuel Jiboski, porte-parole et cofondateur de la primaire populaire, le taux de participation dépasse 70%. Il répond à Antoine Gignot.
Un électeur sur deux aujourd'hui ne sait pas encore pour qui il va voter au premier tour de la présidentielle et on sait que 35% des abstentionnistes aujourd'hui sont des électeurs de gauche, ce qui est un chiffre important. Ce qu'on espère en termes d'effet, c'est qu'il y a une dynamique qui va s'engager autour du vainqueur pour notamment convaincre les hésitants, celles et ceux qui n'ont pas encore fait leur choix, et que nous puissions choisir enfin autour de qui ce rassemblement doit se construire. Ça fait des mois, des années qu'on travaille pour le rassemblement. Ce rassemblement, à partir de ce soir, il aura un visage. Ce que nous demandons aux vainqueurs de la prime populaire ce soir, c'est de nous rejoindre, de nous retrouver pour d'abord signer ce contrat de rassemblement. C'est-à-dire maintenir de l'ouverture vis-à-vis de toutes les familles de la gauche, social-démocrate, écologiste et radicale, pour que ces familles-là travaillent ensemble pendant la campagne, au gouvernement et au Parlement.
Samuel Giboski avec Antoine Gignoux, invité de ce journal, Édouard Le Cerf, directeur général adjoint du groupe BVA et de l'Institut de sondage. Bonjour Édouard Le Cerf.
Bonjour.
Alors est-ce que ce soir à gauche, on y verra un peu plus clair après le résultat de cette primaire populaire selon vous ?
Plus clair, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui est intéressant avec la primaire populaire, c'est qu'il faut l'analyser à trois niveaux, je pense. Il ne faut pas simplement voir le premier niveau qui est celui de la question d'une absence de point de référence, de point de centralité, de point de gravité à gauche, attesté par les sondages, hein, avec à la fois de la dispersion, à la fois une certaine faiblesse des candidats présents, une faiblesse aussi collective, hein, quand on agrège l'ensemble des intentions de vote pour les candidats. C'est vrai qu'il y a cette question de cette absence qui est aussi attendue par les électeurs de gauche eux-mêmes nous disent dans les enquêtes eh bien, qu'ils y voient une possibilité. Peut-être pas forcément de désigner un candidat qui va rassembler tout le monde, mais en tout cas de retrouver un socle commun d'idées. Il faut aller un peu au-delà de cela, parce que ça c'est important, c'est sans doute stratégique au moment de la campagne, mais c'est aussi, la primaire populaire hein, indique qu'il y a aussi une forme de remise en cause ou de questionnement un peu plus large d'un système de désignation, système, on le voit bien, en tout cas à gauche, où les partis politiques n'ont pas réussi, les partis et les hommes et femmes politiques, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les partis, il y a aussi les individus. C'est aussi un deuxième niveau qui est questionné par cette primaire populaire, peut-être de manière maladroite, peut-être de manière nouvelle, en tout cas un peu étonnante pour certains. Et puis un dernier niveau qui est simplement celui qui est aussi questionné, qu'il faut se poser, sur lequel il faut se poser la question, le rapport des Français, des électeurs français, à la politique en général et à la manière dont elle se fait, la manière dont elle désigne, la manière dont elle choisit. Vous avez vu que dans la primaire populaire, il y a une question un peu particulière, qu'il y a une question plus d'adhésion que du rejet dont on entend qu'il est souvent un des moteurs des électeurs. Ben c'est ces trois niveaux-là qui sont questionnés par cette primaire. Alors, est-ce qu'on y verra plus clair ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça permet de poser de cette manière-là un certain nombre de sujets importants.
Un vote novateur, effectivement. Alors, 467 000 inscrits, 336 000 votants à midi. C'est un vote qui a tout de même du poids. Les candidats à gauche vont devoir en tenir compte, même ceux qui rejettent la primaire ou qui participent sans consentement.
Ils vont regarder, mais on l'a entendu à votre antenne il y a quelques instants, Adrien Quatennens était lui-même déjà en train d'expliquer que oui, il regarderait ça, mais qu'il n'en tiendrait pas compte, qu'il y a un certain nombre de candidats. Et je pense que le point qui marque par rapport à ces primaires populaires, c'est l'idée que s'il n'y a pas derrière un seul candidat ou une seule candidate, eh bien effectivement cela apparaîtra comme étant quelque chose qu'on regardera, mais peut-être on regardera avec un peu plus de recul, comme étant une initiative qui peut-être pourrait avoir d'autres résurgences, d'autres manières de s'exprimer plus tard, mais pas forcément, ça n'est pas forcément ce soir, que l'ensemble des problèmes dont on vient de parler sera résolu.
Mais en fonction des résultats que l'on devrait connaître aux alentours de 19h, que va-t-il se passer à gauche ? Quelles seront les répercussions si un candidat qui participe ou qui refuse d'y participer obtient un très mauvais score ?
Il ne se passera rien. Il ne se passera rien de point de vue des électeurs, parce qu'on dira toujours, eh bien, écoutez, ce ne sont que 500 000 personnes, 350 000 personnes qui ont été votées. Aucun des candidats qui obtiendrait un très mauvais score ne dira, c'est représentatif de l'ensemble du peuple de gauche. Chacun ira chercher soit des sondages, soit des appuis, soit des militants, etc., pour dire que cela ne représente pas. Donc je ne pense pas que cela bouleverse quoi que ce soit du point de vue de ceux qui seraient disqualifiés. Là, personne qui sera qualifiée, elle, au contraire, va utiliser tous les arguments pour dire que cela a du poids. Mais pour autant, je ne pense pas que demain, le paysage politique à gauche en soit complètement bouleversé.
Cette gauche éparpillée, Édouard Le Cerf, est-ce que, selon vous, la gauche en France a finalement fait son deuil de la présidentielle et enjambe le scrutin du mois d'avril pour se concentrer sur l'objectif des législatives en juin ?
Alors c'est vrai que les législatives sont un des éléments qui devient un point de focal, alors qu'il était éloigné, que les Français ont encore moins en tête que la présidentielle, mais c'est vrai que c'est un point. Quand vous dites la gauche, il faut, je crois, faire une différence entre les partis politiques, les forces de gauche telles que représentées par les différents leaders, et puis la manière dont le peuple de gauche, qu'on appelait le peuple de gauche, on va dire les électeurs qui traditionnellement allaient voter à gauche, peuvent se situer par rapport à ça. Oui, j'ai peur qu'aujourd'hui, encore une fois, ce ne sont que des intentions de vote, prenons toutes les précautions nécessaires, il peut se passer beaucoup de choses, mais sur la base des intentions de vote, il y a une forme de renoncement à se dire « ce ne sera pas notre tour ». Cette fois-là. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Comment est-ce que l'on reconstruit? C'est une question que tout le monde a en tête et dont on ne voit pas bien. Encore une fois, la primaire populaire était un moyen de dire on peut trouver une autre voie pour tenter de désigner les choses. Mais pour autant, j'ai même peur que pour un certain nombre d'électeurs de gauche, la présidentielle et législative sont quelque chose qui sont un peu mis de côté et ne sont pas au centre de leurs préoccupations. C'est plus l'idée de retrouver un socle, retrouver des idées communes et des éléments qui permettent d'avoir du poids politique qui est très important, dont on voit bien aujourd'hui qu'à la fois dans la manière d'imposer les idées et à la fois dans la manière de représenter un certain nombre de potentiels de vote, eh bien on est faible, oui encore.
Merci beaucoup, Édouard Le Cerf, directeur général adjoint du groupe BVA et l'Institut de sondage. Merci à vous.
Merci.
À l'étranger, le Portugal pourrait bien tourner la page de l'Union de la gauche lors des élections législatives anticipées d'aujourd'hui. Le bidule, c'est le surnom de l'Union de la gauche au Portugal qui a permis au socialiste Costa de gouverner pendant 6 ans, pourrait laisser la place à un gentleman agreement, un accord entre les socialistes et les sociaux-démocrates du centre-droit, même si l'issue du vote s'annonce très incertaine. Emmanuel Macron s'empare du dossier sensible du nucléaire iranien. Le chef de l'État a appelé ce matin le président iranien Ebrahim Raisi. Et Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité d'accélérer les négociations sur le nucléaire, Olivier Poujade.
L'Élysée considère que ce mois de février sera décisif dans les pourparlers, qu'il est désormais essentiel que l'Iran démontre, explique la présidence française, une approche constructive et revienne à la pleine mise en œuvre de ses obligations. Une décision politique est donc aujourd'hui nécessaire. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a jugé bon de décrocher son téléphone ce matin pour échanger avec le président iranien. Après plusieurs semaines de discussions techniques entre diplomates, l'Iran a pour la première fois envisagé lundi dernier la reprise de négociations directes avec les États-Unis, suggestion que les Américains ont immédiatement acceptée. L'ultra-conservateur Raisi doit désormais confirmer cette option. Des échanges directs faciliteraient considérablement les garanties exigées par les Iraniens sur la levée des sanctions américaines et en contrepartie, les États-Unis pourraient obtenir l'assurance d'un arrêt immédiat du programme d'enrichissement de l'uranium relancé par les Iraniens. Dans son rôle de médiateur, le président français tente aujourd'hui d'accélérer un processus jugé bien trop lent, même si tous les négociateurs considèrent qu'un retour mutuel dans le texte de 2015 est de nouveau envisageable.
Et Emmanuel Macron a aussi évoqué le sort de Benjamin Brière et Fariba Adelkha et exprimé sa préoccupation concernant la situation de ces deux Français emprisonnés en Iran. Ophélie Meunier, notre consoeur journaliste de M6, a été placée sous protection policière après un reportage de Zone Interdite, en partie consacré à l'islamisme dans la ville de Roubaix. L'animatrice de M6 et un jeune homme originaire de Roubaix, Amin Elbaï, lui aussi placé sous protection policière, ont reçu plusieurs menaces. Ce reportage avait provoqué beaucoup de vives réactions sur les réseaux sociaux à quelques jours du procès du maire de Roubaix, Guillaume Delbar, sur les faits dénoncés dans l'émission. L'homme de 43 ans qui s'était enfui de l'hôpital psychiatrique Marchand de Toulouse a été interpellé hier soir à Paris. Il avait été mis en examen pour viol sur son ex-compagne en 2011, jugé irresponsable, il n'y avait pas eu de procès. C'est la 4e fois en 10 jours qu'un patient hospitalisé en psychiatrie à Toulouse déjoue la surveillance du personnel de santé et la 3e fois au sein de l'hôpital Marchand. La question de la sécurité se pose dans ces établissements. L'ARS Occitanie a d'ailleurs demandé une enquête à la direction de l'hôpital. Selon le docteur Radouane Aoui, chef de pôle en psychiatrie à l'hôpital Marchand, l'équipe soignante a bien agi. Le docteur Aoui répond à France Bleu Occitanie.
L'inspection de l'ARS pourra le déterminer, hein, s'il y a eu des manquements. Ceci étant, les trois situations sont complètement différentes. J'ai tendance à dire que l'ensemble de soignants ont fait correctement leur travail, un travail, encore une fois, très complexe, et qu'effectivement, on est alerté par des signaux, et généralement, on adapte le traitement, les conditions d'hospitalisation, le cadre de soins. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de failles. L'idée, c'est de pouvoir retravailler ces failles s'il y en a. Aujourd'hui, on a décidé de renforcer notre vigilance, mais dans tous les cas, nous sommes mis déjà au travail, en fait, pour essayer d'examiner chacune de ces situations au peigne fin. Mais sincèrement, je pense qu'on a fait notre travail comme il faut.
Et puis concernant le féminicide à Paris, les recherches se poursuivent pour retrouver un policier après la découverte du corps sans vie de sa compagne vendredi dernier dans un appartement du 19e arrondissement. L'autopsie de la victime, une femme d'une trentaine d'années, confirme la piste criminelle. Elle a été étranglée. Son compagnon, gardien de la paix, connu pour des faits de violence conjugale, est donc toujours en fuite. La pagaille sur les trottoirs de Marseille à cause des poubelles qui ne sont plus ramassées depuis plusieurs jours, depuis 11 jours, et l'exaspération des Marseillais. Après ces journées de mobilisation, la situation s'enlise à Marseille et malgré l'ordre de lever les blocages des dépôts et des parkings des camions bennes par le tribunal administratif hier, la grève des poubelles continue. FO, syndicat majoritaire à l'origine du mouvement, souhaite continuer la mobilisation et hier, une vingtaine d'habitants, excédés par les montagnes de déchets, sont venus devant les locaux du syndicat. Alexandre, un Marseillais, n'en peut plus de cet amoncellement de déchets sur les trottoirs. Le troisième mouvement de grève en 4 mois, il répond à Clémentine Sabrier de France Bleu Provence.
Il y a de la pénibilité, on le sait, on est d'accord avec ça. Mais maintenant, ça suffit. Ça fait des années qu'on nous traîne avec des grèves à répétition, avec de l'insalubrité. On est dans un problème d'hygiène publique. On est dans un problème. Je vous dis, moi, j'habite près de du parc de la Mathilde. Il y a des immondices. Il y a des rats. Il y a des enfants qui jouent dans le parc et il y a des rats. Donc ça commence à bien faire. Franchement, moi, j'arrive plus à trouver une solution. Je veux bien comprendre le droit de grève. Je veux bien comprendre qu'il y a de la pénibilité. Mais maintenant, ça suffit. Franchement, ça suffit.
L'épidémie de coronavirus avec des contaminations toujours très élevées. Plus de 332 000 nouveaux cas hier. Par ailleurs, à partir d'aujourd'hui, la dose de rappel devient obligatoire pour les soignants et les pompiers. Mercredi prochain, on pourra enlever le masque en extérieur. Ce sera également la fin des jauges avec la levée d'une partie des restrictions sanitaires. Il y a un secteur qui attend avec impatience le retour à la vie normale et cela concerne les mariages. Le plus gros salon du mariage en France se tient en ce moment à Paris et 2022 pourrait bien être une année record pour les mariages, encore plus que 2021 avec 220 000 union célébrée. Les fabricants de robes de mariée, après avoir beaucoup souffert de la crise sanitaire, retrouvent le sourire, les affaires reprennent. Magali Homo s'est rendue au salon du mariage qui a lieu jusqu'à ce soir, porte de Versailles à Paris.
Avec ou sans paillettes, dos nu ou col plongeant, le tout, c'est de trouver la robe de ses rêves.
Elle a la simplicité de la pureté, en fait, sans trop de fioritures.
Direction, les cabines d'essayage.
Comment vous vous trouvez ?
On dirait que je suis maigre.
Elle veut maigrir.
Ça va être la bonne, hein ?
Bah, j'espère, ouais.
Une bonne chose de faite, car la date fatidique approche.
Cet été.
Ça va, on revoit des vraies princesses. Voilà, ils veulent qu'on leur mette un peu des paillettes dans leur vie, quoi.
Pour Paul Cherki, le fondateur de la marque Confidence Mariage, la demande est extrêmement forte.
On essaye de contenter tout le monde. C'est pas toujours facile. Faut pas que les gens nous en veuillent parce que si on peut pas faire une robe pour le mois de mai, c'est qu'on a nos raisons, quoi. On aimerait dire oui à tout le monde. Mais on essaye de faire notre possible pour contenter tout le monde.
La reprise s'amorce pour les fabricants de robes, mais le Covid rôde toujours. Stéphane Seban, fondateur et organisateur du Salon du Mariage.
Bah, ceux qui sont là sont très contents de repartir, mais maintenant les délais d'approvisionnement aussi, de toutes les matières premières, de la dentelle, etc. font que, j'étais sur un stand tout à l'heure, il y a une fille qui voulait absolument une robe et on ne pouvait pas lui livrer avant minimum juin. Malheureusement, elle se marie en mai.
Selon lui, d'ici 2023, on pourrait atteindre un boom des unions. Aux alentours de 300 000 mariages devraient être célébrés, un record depuis l'an 2000.
Le tennis avec l'Open d'Australie, une finale très disputée en ce moment entre Medvedev et Nadal. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Et le Russe mène de 7 à 1, Nadal va un peu mieux.
Oui, il va un petit peu mieux Rafael Nadal. C'est vrai qu'il a été largement dominé, en tout cas dans le premier set, remporté par Daniil Medvedev, le numéro 2 mondial, sur le score de 6-2. Derrière, Medvedev a enchaîné en remportant la deuxième manche, c'est au tie-break cette fois, 7 points à 5. Mais Rafael Nadal s'accroche, il est présent. Et Rafael Nadal, dans un ultime effort dans ce troisième set, a réussi à prendre le service de Daniil Medvedev pour faire le break et pour remporter finalement ce troisième set sur le score de 6-4, 2-7-1. Donc dans cette finale débutée il y a 3h22, et dans le quatrième set, 2-1 en faveur de Rafael Nadal qui vient de faire le break, il vient de prendre le service de Daniil Medvedev. Incroyable, inoxydable Rafael Nadal qui s'accroche, c'est un guerrier, c'est un battant, il se battra jusqu'au bout Rafael Nadal pour remporter ce fameux 21e titre du Grand Chelem. S'il y parvient, eh bien il détiendra seul le record du nombre de titres de Grand Chelem devant Roger Federer et Novak Djokovic. Alors évidemment on n'en est pas là, mais sur ce qu'il montre actuellement, eh bien Rafael Nadal est beaucoup plus frais que Daniil Medvedev que l'on sent un petit peu fatigué, que l'on sent extrêmement nerveux. Il perd souvent de sa lucidité lucidité. Raphaël Nadal en a profité il y a quelques instants parce que c'est sur une double faute que Daniil Medvedev a perdu sa mise en jeu. Donc Raphaël Nadal est au service pour confirmer le break, pour mener 3 jeux à 1 dans le quatrième set. Il est mené pourtant 2 sets à 1 dans cette finale débutée il y a 3h32 maintenant.
Merci Fabrice Abgral. Il nous reste à voir le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Amélioration aujourd'hui pour les régions de la moitié nord avec le retour d'éclaircies du nord de la Loire au Grand Est. Du soleil également le long des Pyrénées et des Alpes à la Méditerranée, mais avec un vent turbulent, notamment dans le couloir du Mistral, et des nuages parfois plus nombreux sur l'ouest de la Corse et sur la côte d'Azur. Partout ailleurs, la grisaille sera très tenace. Il est prévu cet après-midi 17 à 18 degrés dans le golfe du Lion, 14 à 16 de la Corse à la Camargue, 10 à 11 le long de l'Atlantique, 9 degrés en moyenne entre Lille, Strasbourg, Paris, Limoges et Lyon, et 4 à 6 degrés près de la Garonne. Demain, le vent sera turbulent en Manche, avec un risque de submersion marine sur le Dunkerquois vers la mi-journée. Du vent également autour de la Méditerranée, avec une forte tramontane, de très fortes rafales de nord l'après-midi en PACA, avec un temps perturbé qui va donner de la neige sur tous les massifs à basse et à moyenne altitude.